VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, bonjour, édition du mercredi 29 août 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, les élections législatives auront lieu en octobre et en novembre.
En République démocratique du Congo, saisine de la Cour constitutionnelle par les 6 candidats recalés à la présidentielle du 23 décembre prochain.
Au Kenya, arrestation de la vice-présidente de la Cour suprême, Philomena Mwilu, soupçonnée d'enrichissement illégal.
Le chef rebelle sud-soudanais, Riek Machar, va finalement signer demain l'accord définitif de paix avec le gouvernement.
La Birmanie a rejeté le rapport des enquêteurs de l'ONU accusant son armée de génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
Au Mali, après la récente présidentielle du 12 août, le gouvernement a annoncé que les législatives auront lieu en octobre et en novembre prochain. De Bamako, des détails avec Kassim Traoré.
La bataille pour le renouvellement des 147 sièges de l'Assemblée nationale du Mali est lancée. Le collège électoral est convoqué pour le dimanche 28 octobre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Cela pour procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mardi 28 août 2018. Un conseil qui a été présidé par le Premier ministre Soumerou Boué-Maïga. Pour les législatives de 2018, la campagne électorale à l'occasion du premier tour sera ouverte le samedi 6 octobre à 0h. Elle sera close le vendredi 26 octobre à minuit. Un second tour aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'aurait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Pour ce qui est de la campagne à l'occasion du deuxième tour, elle sera ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et close le 16 novembre 2018 à minuit, indique le communiqué du Conseil des ministres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, une centaine de jeunes de Katiola, ville carrefour du Nord, ont envahi le village d'Atienka, situé à 15 km de Katiola, brûlant les maisons parce qu'ils pensent que les villageois sont responsables de la disparition d'un des leurs. Des dizaines de maisons de ce bourg, de 1000 personnes, ont été brûlées, a rapporté un journaliste de l'AFP, dans ce village presque entièrement déserté par ses habitants. La gendarmerie a pris position sur les lieux qui fumaient encore en fin d'après-midi hier et où des casseroles, débris des maisons et vêtements jonchaient le sol.
Au Niger, le bilan des inondations qui frappent le nord du pays depuis le début de la saison des pluies en juin s'est alourdi et s'élève désormais à au moins 36 morts selon l'ONU. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Les dégâts causés par les inondations et les glissements de terrain sont particulièrement importants cette année. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ce sont plus de 130 000 personnes qui sont sinistrées à la date du 27 août. Les eaux ont également détruit plus de 7 000 habitations, des milliers d'hectares de culture et plus de 31 000 têtes de bétail ont été décimées, toujours selon les chiffres de l'OCHA. Agadez, la grande ville du Nord, affiche le plus lourd bilan avec près de 61 000 sinistrés, soit près de la moitié des habitants. Maradi, Zinder et Diffa ont également été touchés, mais dans une moindre mesure. En revanche, la capitale Niamey a été épargnée alors que les intempéries y avaient tué une vingtaine de personnes en 2017. La construction de digues aurait mis des milliers de riverains à l'abri des crues meurtrières du fleuve Niger.
En République démocratique du Congo, les 6 candidats recalés à la présidentielle du 23 décembre prochain ont saisi hier la Cour constitutionnelle contre la décision de la commission électorale d'invalider leur dossier. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Marie-Josée Ifokoumpouta a déposé son recours contre son défaut de nationalité congolaise d'origine invoqué par la CENI. L'ex-vice-gouverneur a répété qu'elle avait recouvré sa nationalité congolaise d'origine en 2011 après avoir eu la nationalité canadienne. Pour sa part, Jean-Claude Mokangolo Mpati affirme avoir été écarté car la CENI n'arrivait pas à récupérer sa caution de 100 000 dollars auprès de la Direction générale des recettes, brandissant le récépissé de son virement bancaire. Quant à Jean-Pierre Bemba, écarté en raison de sa condamnation pour subornation de témoins devant la Cour pénale internationale, ses proches estiment que le code pénal congolais établit une distinction entre la corruption motif d'invalidation et la subornation. La Cour constitutionnelle doit désormais délibérer et renvoyer ses décisions à la CENI, qui annoncera la liste définitive des candidats le 19 septembre, à 3 mois des élections prévues le 23 décembre.
A signalé que la candidature d'un milicien condamné à perpétuité pour des viols sur des fillettes a été jugée recevable aux élections provinciales en RDC, suscitant la colère d'une ONG contre la commission électorale. Son cas nous avait échappé, des corrections sont en cours, a assuré cette même commission à l'AFP. Le 26 juillet, la Haute Cour militaire avait confirmé en appel la condamnation de Frédéric Batoumiké, âgé de 64 ans, pour le viol d'une quarantaine de fillettes âgées de 18 mois à 12 ans dans la région de Bukavu entre 2013 et 2016. Il était accusé d'appartenir à la milice Jessie Yezu, l'armée de Jésus.
RDC toujours, lancement aujourd'hui au Nord Kivu de la campagne de vaccination contre la polio. Près de 2 millions d'enfants sont concernés par cette campagne, mais certaines zones de santé dans la région de Beni, dans le nord-est du pays, sont à exclure. Précision de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Cette zone de santé se trouvant dans la région de Beni, sur les 34 et que compte la province du Nord Kivu, seront écartées pour cette première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est la suite à la maladie à virus Ebola déclarée en début du mois d'août dans cette partie de la province. Durant 3 jours, les équipes de vaccinateurs feront porte à porte et dans chaque avenue. Le ministère de la Santé prévient en évitant les contacts que les équipes de vaccinateurs pourront avoir avec les cas suspects ou confirmés d'Ebola. Non seulement Ebola, certains coins restent inaccessibles suite à l'insécurité dans cette région de Beni, située à plus de 300 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Signalons tout de même que le ministère de la Santé promet d'effectuer la suite de cette vaccination à Beni une fois l'épidémie d'Ebola maîtrisée dans ces zones de santé exclues pour cette première phase. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême, Philomena Mwilu, a été arrêtée hier. Elle est soupçonnée d'enrichissement illégal. Madame Mwilu faisait partie des juges qui, en août 2017, avaient annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017. Des détails avec Jean-Roger Bian.
Le directeur des poursuites, Nourdin Hadji, a assuré mardi détenir la preuve que Mme Mwilu avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. Elle est également accusée de ne pas avoir payé certains impôts. À la question de savoir si les poursuites contre Mme Mwilu étaient liées à la menace proférée en 2017 par M. Kenyatta de s'occuper de la magistrature, M. Hadji a assuré et travaillé en toute indépendance. « Nous sommes une institution indépendante et nous ne sommes dirigés par personne », a-t-il affirmé. Philomena Mwilu a toutefois été libérée dans la soirée sous caution de 42 000 euros. Son avocat principal, le sénateur d'opposition James Orengo, qui est également celui qui avait plaidé en août 2017 pour l'invalidation de la réélection de M. Kenyatta, a indiqué que la vice-présidente de la Cour suprême entendait contester la constitutionnalité des poursuites engagées contre elle. Le président Kenyatta a récemment lancé une guerre contre la corruption dans son pays à l'économie dynamique, mais minée par une culture de pot de vin et de malversation.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar va finalement signer le jeudi 30 août l'accord définitif de paix avec le gouvernement, accord destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le plus jeune pays du monde. C'est ce qu'a annoncé mardi à Khartoum le médiateur soudanais. Plus tôt dans la journée, Riek Machar avait refusé de signer en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées à cet accord. De telles réserves seront, selon le médiateur, soumises à l'IGAD qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada doivent entrer ce mercredi dans le vif du sujet pour sauvegarder l'accord de libre-échange nord-américain après la signature lundi d'un projet bilatéral associant ses partenaires de l'ALENA, le Mexique et les États-Unis. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est arrivée mardi en fin de journée dans la capitale américaine où elle a eu une brève réunion avec le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer. Elle a manifesté un certain optimisme.
L'ouragan Maria de 2017 a officiellement tué 2975 personnes sur l'île de Porto Rico dans les 6 mois suivant la catastrophe naturelle, selon une étude indépendante entérinée mardi par le gouvernement de ce territoire américain. Le bilan tragiquement sous-estimé de 64 morts, qui fut en temps celui avancé par les autorités locales, est désormais officiellement abandonné après un an de controverses, tandis que la méthode pour comptabiliser les décès causés directement et indirectement par les catastrophes naturelles est appelée à évoluer.
Le président américain Donald Trump a mis en garde mardi Google, Twitter et Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité, disant qu'ils naviguent vraiment en eau très trouble et leur conseillant de faire attention.
La Birmanie a rejeté aujourd'hui le rapport des enquêteurs de l'ONU accusant son armée de génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas, défiant la communauté internationale au lendemain d'une réunion du Conseil de sécurité.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
La population africaine devrait atteindre plus de 2,5 milliards d'individus d'ici 2050. Le Niger, le Tchad et la RDC vont générer une croissance démographique continue. Des experts estiment que l'évolution de la population selon les tranches d'âge devrait considérablement influencer les politiques et les performances économiques. Le Kenya et les États-Unis ont conclu plusieurs accords d'investissement pour 237 millions de dollars dans les secteurs de l'énergie et de la sécurité alimentaire. La construction et l'exploitation d'une centrale éolienne d'environ 100 mégawatts au sud de la capitale Nairobi coûtera 232 millions de dollars. Le reste servira à étendre la distribution des vivres, améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs kenyans. La croissance de l'économie nigériane retombe à 1,5% au deuxième trimestre 2018. Le produit intérieur brut a affiché une hausse de 1,50% pour la même période. Le secteur non pétrolier a progressé de plus de 2%. L'économie nigériane a commencé l'an dernier à sortir de la récession, mais le rythme de la reprise demeure relativement lent.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La 6e et dernière journée en phase de poule de la Coupe CAF s'annonce décisive.
Et oui, on connaîtra tous les qualifiés pour les quarts ce soir. L'AS Vita Club, la Renaissance Berkane et Al Masry ont déjà obtenu leur ticket. Il reste donc 5 places qualificatives. Dans le groupe A, le Raja Casablanca devra l'emporter face aux Ghanéens d'Adouana Star pour se mettre à l'abri, surtout que la SEC reçoit le leader congolais à Abidjan. C'est aussi serré dans le groupe C entre Kara de Brazzaville et Enyimba qui s'affrontent au Nigeria et le WAC d'Abidjan qui reçoit Djoliba AC. Les deux leaders du groupe D, Gormaya et l'USM Alger, se retrouvent à Alger, tandis que Rayon Sport en embuscade tentera le tout pour le tout devant Young Africans.
Plus de suspense en Ligue des Champions, les 8 qualifiés pour les quarts sont connus.
Tout à fait, il restait juste 3 places à prendre pour les quarts. Al Ahly, le WAC, l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et le TP Mazembe ayant décroché leur ticket bien avant la dernière journée. Grosse sensation à Pretoria, en quête d'un point pour se qualifier, les Guinéens de Oroya AC ont tenu en échec Mamelodi Sundowns 0-0. Dans le groupe B, c'est finalement l'Entente Sétif qui accompagnera le TP Mazembe en quart de finale. L'Aigle Noir a validé son billet en s'imposant 2-1 sur le terrain de ses compatriotes du MC Alger. Mission accomplie aussi pour Primero de Agosto, qualifié grâce à sa victoire 2-1.
Éliminatoire Cannes 2019, la liste du Bénin est enfin disponible.
C'est la première sélection de Michel Dussuyer depuis son retour au Bénin comme sélectionneur des écureuils. Il a convoqué 21 joueurs parmi lesquels le capitaine Cessignon, les attaquants Steve Mounier et Michael Poté. Après leur succès 1-0 sur la Gambie lors de la première journée des éliminatoires, les écureuils voudront enchaîner le 9 septembre face aux
éperviers du Togo, dominés eux par les Fenech d'Algérie lors de leur première sortie.
Au Maroc, les Lions de l'Atlas feront face au Malawi sans Benassia.
Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a fait appel à 25 joueurs pour la réception du Malawi le 8 septembre. Par rapport aux 23 Lions de l'Atlas du Mondial 2018, on note l'absence du capitaine Mehdi Benassia. En revanche, plusieurs retours sont à signaler, avec le néo-défenseur de Dijon, Naït Aguert, le milieu de terrain Noussaïr Mezraoui, pré-convoqué pour le Mondial, et des attaquants Achraf Ben Charti et Yacine Bamou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 7 militaires burkinabés ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par l'explosion d'un engin artisanal en allant renforcer un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays. Ces dernières semaines, ces attaques ne se produisent plus seulement au nord, mais aussi dans le centre, le sud et l'est. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le chercheur Jacob Yarabatiola, spécialiste des questions de terrorisme.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. C'est des attaques des postes donc des forêts, l'attaque de postes de gendarmerie, de police et la pose des mines sur lesquelles justement les engins donc des forces de défense et de sécurité sautent régulièrement.
Est-ce que l'autorité arrive à suivre?
Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de cours, parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque, mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Par exemple, les terroristes, avant d'attaquer un poste, posent donc des engins de ce type sur le parcours éventuel, le parcours possible donc des forces de défense, et sachant qu'ils vont sauter dessus. Alors que quand ils veulent riposter, ils ne prennent aucune précaution, à mon avis, sur ce type de situation. Il me semble qu'ils n'y pensent même pas régulièrement que leur chemin pourrait être miné.
Alors, ceux qui mènent ces attaques dans l'est du pays, d'où viennent-ils?
On sait que régulièrement, le nord, le Sahel, était justement attaqué, et il y avait aussi donc des attaques sporadiques dans l'est. Maintenant, on a constaté que les attaques au niveau donc du Sahel ont baissé d'intensité. Et à l'inverse, justement, dans l'est du pays, on reprit le plus bel. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas et ont en même temps animé leur initiative par rapport à d'autres donc localités. Peut-être voir les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. De toute façon, il y a une grosse synergie qui est là et qui a un projet commun. Et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
Jacob Yarabatiola, joint à Ouagadougou. Pour rester à Ouagadougou, la capitale burkinabé connaît une pénurie de carburant depuis le début de la semaine. Cette situation est due à une crise entre l'OTRAF, Organisation des Transporteurs Routiers du Faso, et l'UCRB, l'Union des Chauffeurs Routiers du Burkina. Ces deux organisations, d'ailleurs, ont été suspendues hier par le gouvernement. Le point avec notre correspondant, Lamine Traoré.
À Ouagadougou, on était loin de s'imaginer jusqu'où cette crise, sinon ce bras de fer entre l'OTRAF, Organisation des Transporteurs Routiers du Faso, et l'UCRB, Union des Chauffeurs Routiers du Burkina, allait aboutir à une pénurie sans précédent de produits pétroliers. Depuis le week-end dernier, l'Union des chauffeurs routiers exige le départ du président de l'Organisation des Transporteurs Routiers au motif qu'ils sont maltraités. Ils ont décidé d'éteindre les moteurs. Aucun camion ne circule. Conséquence, une pénurie de carburant dans la plupart des stations de la capitale. Les Ouagalais, durement touchés, ne savaient plus où donner de la tête pour trouver le précieux carburant.
Vraiment, cette situation n'honore personne. Voilà. Si les uns et les autres peuvent en tout cas s'asseoir et puis discuter, trouver un terrain d'entente pour que les choses se normalisent, ça va être plus en tout cas bénéfique pour tout le monde.
Je trouve que c'est pas du tout à fait normal parce que moi-même, j'ai pas d'essence. S'il faut payer le litre à 2500, vraiment, c'est pas du tout normal.
qui est mieux, c'est ce que l'État essaie de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter ce problème? Le problème même, c'est pour avoir même l'essence, même actuellement, c'est tout un problème, malgré que c'est à 2000.
Pour éviter le pire, le gouvernement a engagé des pourparlers avec les deux organisations. Un accord a été trouvé et il devait aboutir à la levée du blocus. Mais sur le terrain, rien n'y fait. Les perturbations dans l'approvisionnement en produits pétroliers ont continué. Mardi soir, le gouvernement, à bout de patience, est sorti de sa réserve et a annoncé la suspension temporaire des deux organisations. Le premier ministre Paul Kabatieva lui-même monte au créneau.
Mesurant la gravité de la persistance d'une telle situation sur l'approvisionnement du pays et la sécurité nationale, le gouvernement prend ce jour, 28 août 2018, les mesures suivantes. Premièrement, la suspension temporaire de toutes les activités de l'OTRAF et de l'UCRB. Deuxièmement, la mise en œuvre de mesures immédiates et appropriées pour le retour à l'approvisionnement régulier du pays sur l'ensemble des corridors.
La nouvelle a réjoui plus d'un à Ouagadougou. Reste à savoir si le message de fermeté a été entendu par les fauteurs de troubles eux-mêmes, les chauffeurs et leurs patrons. Alors, circulez si vous trouvez le carburant. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires? Et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens? C'est un Washington Forum spécial ce jeudi à 19h10 en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
En République démocratique du Congo, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola fait état de 75 morts dans l'est du pays. Comment cette maladie affecte-t-elle la vie et les relations des habitants de Beni, zone congolaise frontalière à la fois avec la province de l'Ituri, l'Ouganda et le Rwanda? Eddie Isango a joint sur place l'éditeur du journal Les Coulisses, Nikèze Kibel Beloka.
Les pratiques d'hygiène observées notamment dans le lavage des mains, pratiquement à l'entrée de chaque magasin, boutique, chaque bureau, il y a un seau d'eau avec du savon désinfectant pour se laver les mains. Cette attitude est observée et commence même à prendre corps dans les esprits de la population ici. Il y a ceux d'ailleurs qui se promènent avec des flacons de désinfectants pour se laver les mains chaque fois qu'ils tiennent le poignet. Les gens ne se saluent plus. Même au niveau de l'église, il est interdit de se saluer par le signe de la paix qui est l'échange de mains.
Quel impact a cette méfiance que les gens ont les uns les autres dans les relations, par exemple en famille, à l'école, au travail?
Il se pose aussi un problème au niveau de la rentrée scolaire. Parce que en réalité, la rentrée scolaire, c'est pour lundi 3 septembre. Et cette rentrée scolaire devra se passer normalement comme à travers toute l'étendue du pays. Bon, là, effectivement, il y a des grincements des dents parce qu'il est difficile pour les élèves de ne pas se côtoyer, de ne pas se toucher. Vous savez, ici, il y a des classes où on s'assoit 3-4 par banc. Alors, ça pose un sérieux problème.
Les parents ont-ils de la réticence à envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est lundi de la rentrée scolaire?
On ne peut pas reculer la rentrée parce qu'on ne sait pas à quel moment, pendant combien de temps va durer le traitement pour cette maladie. Donc si on décrète 1 mois, 6 mois, cela signifie qu'on décrétait l'année blanche. Donc il faut prendre d'autres dispositions pour que les élèves étudient. Mais ce n'est pas facile, il y a assez de réticences du côté des parents. Les habitudes ont la tête dure, on continue à vendre. Ce qui est plus observé, c'est la non-salutation. Les gens ne se saluent plus par la main. Ça, c'est ce qui est plus observé. Mais pour les autres habitudes, ça continue un peu. Vous savez, ce n'est pas facile.
Qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de la frontière? Parce qu'on bénit les frontalières à 3 pays.
Au niveau de la frontière, notamment la frontière avec l'Ouganda du côté Kassindi, l'OMS a installé un centre de contrôle pour les populations qui traversent.
C'était Nikèze Kibel Beloka, l'éditeur du journal Les Coulisses.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Buenos Aires, Aretha Franklin, des centaines de personnes ont défilé hier à Détroit, dans le Michigan, pour rendre un dernier hommage à la légendaire chanteuse américaine Aretha Franklin, au début de 4 jours de cérémonie célébrant la vie de la reine de la soul. Son cercueil étincelant, porté par des hommes en costume noir et gants blancs, a été déposé au milieu d'énormes bouquets de roses dans le musée Charles H. Wright, dédié à l'histoire des Africains américains. Des fans ont passé la nuit à la Belle Étoile afin de rendre hommage à Aretha Franklin et des milliers de personnes ont défilé devant sa dépouille.
She was an icon in the city of Detroit, and me growing up as a kid, I listened to her a lot with my mom and with my grandmother, and you know, my mother, she would dance with us when we was little bitty boys, you know, to her songs.
Ce fan raconte qu'en grandissant, il écoutait avec sa mère et sa grand-mère la musique d'Aretha Franklin et il voyait sa mère danser. C'est comme ça qu'il a appris à aimer Aretha Franklin. Le cercueil d'Aretha sera transporté demain jeudi dans l'église où officiait son père C.L. Franklin, ancien pasteur et ami du leader du mouvement des droits civiques Martin Luther King Jr. Un concert gratuit se tiendra jeudi soir au Greater Grace Temple où doivent entre autres se produire Stevie Wonder et Jennifer Hudson. Les funérailles sont prévues vendredi. L'ancien président Bill Clinton et Jesse Jackson, l'une des figures du combat pour les droits civiques, doivent être présents aux obsèques. La reine de la soul est morte à 76 ans, le 16 août à Détroit, déçue d'un cancer du pancréas. Elle a laissé derrière elle une carrière de 6 décennies, faisant d'elle l'une des artistes les plus respectées des États-Unis. Un dernier hommage en musique. Aretha Franklin.
Ain't no way for me to love you if you won't let me.
Aretha Franklin, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.